On accueille aujourd'hui le cinéaste Peter Hoffman, qui a fait un week-end de projection à Marseille de deux de ses films la dernière année à la Casa Consola, Oliva, Oliva au Polygone Étoilé. Et on va faire une petite discussion avec lui autour de ses films qu'il a fabriqués, peut-être autour aussi d'un film dans lequel tu as joué, d'un ami à toi, de Nicolas Rey. Autrement, la Molucie, où tu lis des textes de Günther Anders. Mais on va aussi parler de diffusion, puisque tu t'occupes depuis de longues années d'une salle de cinéma indépendante, associative, à Hanovre.
Otto, du sollst nach Hause kommen, denn deine Frau ist tot. Ist sie tot, bleibt sie tot, frisst sie der Teufel zum Abendbrot. Ja, ja, wir bleiben hier bei einer Flasche Pilsnerbier. Otto, du sollst nach Hause kommen, denn deine Wohnung ist leer. Aber Julia, ist sie leer, bleibt sie leer, spielen die Mäuse im Straßenverkehr. Ja, ja, wir bleiben hier bei einer Flasche Pilsnerbier. Otto, du sollst nach Hause kommen, denn deine Wohnung ist weg. Ist sie weg, bleibt sie weg, schlafen wir eben im Straßendreck. Ja, ja, wir bleiben hier bei einer Flasche Pilsnerbier. Otto, du sollst nach Hause kommen, denn deine Autos sind weg.
Voilà, donc on vous souhaite une bonne émission, une bonne écoute et on va essayer d'être intelligible au mieux possible.
Intelligent.
Et intelligent. Alors, par quoi pourrait-on commencer une proposition?
Peut-être que, Peter, tu puisses nous raconter un petit peu comment tu es venu au cinéma.
J'ai fait des études de beaux-arts et là il y avait quelqu'un qui proposait de travailler avec photographie, film en Super 8. Et là j'ai acheté ma première caméra Super 8 et j'ai tourné sur plusieurs ronds-points un œuvre. Donc c'était pas avec l'idée de faire du cinéma mais de faire un peu de l'art. C'était dans le contexte de l'art et moi je tournais en rond, j'étais positionné au milieu du rond-point et je suivais le trafic, aussi les piétons qui partaient d'un côté et de l'autre. Et comme ça je faisais bouger la caméra selon les mouvements qu'il y avait autour. Ça c'était des expérimentations. Et après j'ai rencontré un ami qui faisait aussi des études de beaux-arts. Et on a commencé à faire des films, surtout parce qu'on avait l'impression que l'art n'intéresse pas trop. Les galeries, les vernissages, tout le monde buvait du vin ou de la bière. On ne regardait pas trop ce qu'il y avait sur les murs. Et tandis que dans une salle de cinéma, les gens regardent l'écran. Ils sont obligés, ils sont dans l'obscurité. Ils sont obligés de suivre. Ce qui se passe sur l'écran. Alors notre idée c'était de profiter de ce dispositif pour parler aux gens. Alors on faisait par exemple un film qui était une comment ça s'appelle avec une pendule hypnotisation. On hypnotisait le public en faisant
un balancier.
Oui, une petite pierre. Et puis on avait des textes écrits, c'était muet. Vous devenez fatigué, vos membres deviennent lourds, comme ça. Et puis après faire suivre des images. Et puis on faisait des petites scènes, des trucs d'animation.
Donc c'était très, très expérimental au départ.
Oui, c'était un mosaïque d'idées. Et puis c'était aussi l'envie de ne pas parler de grands sujets comme on voyait beaucoup dans les films artistiques et des films qui n'étaient qui n'étaient pas des films de grand cinéma, mais des films indépendants, expérimentaux aussi, que ça parlait d'amour, de propos généraux, et on trouvait ça démesuré, et on préférait parler des trucs concrets de notre entourage. Et voilà, on a fait des... On s'est amusé à contredire un peu le... ce qu'on attendait d'un artiste, de faire un peu des bêtises aussi, de filmer le propriétaire de la maison pour le dénoncer dans le quartier, des trucs comme ça.
Mais c'était alors un peu quelque chose comme une... Il y avait des intentions politiques ou un peu... moi, dans le sens de bousculer ou comme des happenings, ou c'était très performatif aussi.
Non, politique, pas dans un sens d'action politique concrète. Je pense que dans le fond, c'était politique parce que c'était une envie d'intervenir d'une autre manière.
Et c'est quoi que vous critiquiez dans la position d'artiste
C'est difficile en français. C'était l'envie des artistes de se mettre par-dessus, d'expliquer le monde, je sais pas, de vouloir trop, de se prendre trop au sérieux. Peut-être,
ouais. Et tu as des exemples de films comme ça ? Enfin, à cette époque, c'était en réaction à certains films en particulier ?
Non.
Mais c'était une tendance que tu sentais, toi. Comment ? C'était quelque chose que tu ressentais et qui te dérangeait, quoi.
Oui.
Mais dans le cinéma commercial ou...
Mais en même temps, c'est vrai, il y avait aussi le cinéma militant qui commençait. C'était l'époque Super 8. Super 8 et vidéo en même temps. Et à Hanovre, il y avait un festival de court-métrage. C'était l'association qui fait aussi le cinéma, où je travaille depuis 30 ans maintenant. Même plus, et là on participait aussi, et là on voyait ces films-là, des films qui étaient faits à Hanovre, mais aussi d'ailleurs il y avait une programmation pour montrer tout ce qui se passait à Hanovre, et en plus des programmes avec des films choisis vus dans d'autres festivals, et c'était surtout ces films-là où on trouvait que l'intention était un peu exagérée Et puis on a toujours essayé d'appeler ça non expérimental, ce qu'on faisait, parce qu'on trouvait que c'était aussi le non expérimental était déjà exagéré.
Vidé de son sens. Quoi.
Maintenant je le vois autrement, j'aime bien aussi ce film qu'on critiquait, j'aime bien le voir, mais à l'époque ça me paraissait viser trop haut.
Et du coup, t'étais proche des surréalistes ou dadaïstes, enfin...
Oui, peut-être, oui. Oui. Notre ambition, oui. Un peu comme ça.
Et ça a marché ?
Oui, ça marchait. Les gens s'amusaient. Ouais. Après, on n'était pas du tout professionnels. On n'a pas envoyé nos films à des festivals... Ça a été montré à Hanovre et presque n'importe dans...
Pardon.
Très peu d'autres lieux. Et puis c'était des copies qui sont abîmées aussi, à force de les montrer là, aussi dans des petites projections privées à la maison.
Parce que c'était du Super 8, du 16 ?
Du Super 8, toujours. D'accord. Du Super 8. Et les premiers films étaient tous muets. Et puis après, moi je m'étais acheté un enregistreur cassette, 4 pistes, où on pouvait mixer le son et puis mettre le son sur les films. Et puis après, Après ça, avec mon ami, c'est celui-là, on avait fait un film où on a bu une caisse de bière entière. Et après chaque bouteille qu'on avait vidée, on s'est filmé l'un à l'autre. Et alors à la fin... Oui, la bière en moi.
La bière en moi.
En fait, c'était le sujet pour un festival, pour un film de 3 minutes. La bête en moi, c'était le thème. Et bête et bière, c'est très proche, les mots en allemand. Bier und Tier. Alors, on a fait comme si on avait mal compris. Et on a fait, au lieu de la bête en moi, la bière en moi. Et on a vidé toute la caisse. 20 bouteilles, chacun 10 bouteilles. Et à la fin... Bon, on était complètement sous et la table était pleine de bouteilles vides. Et voilà, là, on a enregistré une conversation qu'on entend au fond, mais c'est pas important. C'est juste pour avoir un peu de bruitage. L'important, c'est de voir comment ça dégénère dans le visage.
Ouais, donc tu as quelque chose de très aussi, un peu de cinéma burlesque, absurde, dans sa... artisanal, ça fait penser, quand tu parles de ce film La Bière, moi ça me fait penser un peu à du Luc Moulet, d'une certaine manière, dans son truc, je sais pas, je pensais à la bouteille de coca que tu décapsules, quoi.
Mm-hmm.
Tu vois, là.
Ouais. Ouais.
Et t'avais, à cette époque-là, il y a des cinéastes qui t'ont marqué, quand tu, ou pas encore, ou...
Il y avait par exemple Hartenbusch, c'est un cinéaste de Munich. Je crois qu'il est peu connu à l'étranger parce que ses blagues sont très allemandes, très, très liées à la région. Et c'est aussi un cinéma burlesque et agressif. Il dit qu'il est... Il est né en Bavière, il restera jusqu'à ce que la Bavière le sent. Ouais.
Le vire.
Ouais, tous ces films sont des films contre la situation en Bavière ou en Allemagne en général, et puis contre sur le nazisme aussi. Il y a un film où il veut boire tant de schnapps qu'il y a eu de morts dans les camps de concentration. Et puis le calcul, sa vie ne suffit pas pour boire tant d'alcool comme ouais. Les Allemands ont tué de monde dans les camps de concentration. Et ces films sont mal reçus en Allemagne. Il a eu un nom, mais après il n'a plus pu faire de films parce qu'il n'a plus trouvé d'argent.
Et vous l'avez invité dans votre salle de cinéma à Hanovre?
Non, mais on a montré un beau film en plein air à la fête de la bière de Munich. Il est déguisé en flic. Il provoque tout le monde. Il passe dans la fête. Il boit la bière des autres. On lui court après. Et d'abord, les gens ne reconnaissent pas que c'est un faux policier. C'est à ses chaussures qu'on le reconnaît. Mais sinon, il a l'uniforme. Il rentre partout. Il rentre dans la... Dans la salle où il y a les annonces, les micros pour les annonces. Et puis il commence à parler qui a le pouvoir. Wer die Macht, die Wehrmacht. La Wehrmacht, c'était
la police du Gestapo.
Oui, la police. Non, le militaire de l'époque.
Militaire, oui.
Ouais. L'armée allemande. Des nazis. Donc, il faisait des provocations comme ça et les gens ne se rendaient pas compte tout de suite. Et il a fait ça pour la télévision.
En quelle année?
Dans les années 70. Ça, par exemple. Mais sinon, aussi le cinéma français, Godard, tout ça c'était des influences et quand même pour nous.
Fassbinder, non? Dans ce que tu dis un peu de la provocation
Oui, oui, aussi. Après, Buñuel. Mmh. Oui.
Mmh. Werner Schröter.
Moi, je l'ai découvert plus tard.
D'accord. Donc, toutes les années. les années 90, c'est quasiment que des films expérimentaux que tu explores avec France, Robert. Et à partir des années 2000, que tu commences à changer de registre et tu passes au documentaire. Comment c'est venu?
C'est venu parce que je pense avec quelqu'un qui vivait à côté de notre cinéma. Le cinéma, c'est dans un squat. C'était une ancienne usine à chocolat. Et ça a été squatté. Et autour du bâtiment, il y avait des gens qui habitaient dans les roulottes. Et entre eux, quelqu'un qui était schizophrène et qui venait toujours nous voir tous les jours au bureau pour demander du café. Et puis, il voulait aussi filmer. Et il y avait pour un festival, il y avait aussi un sujet qui s'appelait « Ma relation ». Donc, il voulait faire un film avec moi qui aurait eu le titre « Nous quatre », entre nous deux. Et moi, j'étais d'accord. J'ai commencé j'ai fait un film avec lui en lui donnant une caméra Super 8 et moi, j'avais une autre. Et ces images, à lui, il a filmé dans sa roulotte sans lumière. C'était tout noir. Sauf la fenêtre. Et c'était très beau ce qu'il a fait. Parce qu'on ne reconnaît pas tout de suite la fenêtre. C'est très abstrait. Et puis il y a des reflets de lumière à travers la fenêtre qui font un dessin abstrait. Et quand il a vu ça, il a dit « Ah, j'aurais dû mettre une bougie pour qu'on voit que ça, qu'on est dans le noir. » Et puis, oui, j'ai monté ce film avec ces images à lui et les images à moi. Moi, je l'ai filmé en temps aussi, en train de filmer, mais il filmait tout le temps. Avec 3 minutes, il a filmé. Pendant une heure, il ne voulait pas comprendre qu'il n'y avait que 3 minutes de film sur la bobine. On a traversé le quartier et puis à la fin, il a dit « Ah, c'est pas la peine de regarder par le viseur » et puis s'est mis la caméra là.
Sur le
troisième œil. Et après, il était déçu qu'il n'y avait que 3 minutes de noir qu'il avait filmé. Et là, j'ai trouvé intéressant. C'était plutôt documentaire, ce qu'on faisait là. Et j'ai fait deux autres films d'huile. Et puis après, avec l'expérience des vendanges, j'avais beaucoup envie de filmer ce que j'avais vécu aux vendanges. Et j'ai commencé en 90, plus ou moins, d'aller là-bas, à Raziguer. Et deux, trois ans après, j'ai amené une caméra Super 8, j'ai filmé, et tout était raté. C'était des pellicules russes. Le transport n'avait pas marché, les images bougeaient tellement que je ne pouvais rien faire avec. Et puis l'année suivante, j'ai refilmé, mais avec la même caméra, et j'ai eu pratiquement les mêmes problèmes. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer de faire un film avec. Et après, j'ai refilmé de Super 8 en Super 8, image par image, ce qui me semblait valable pour faire un film. Et puis avec des photos qu'une amie avait fait. Et c'est un documentaire expérimental qui m'a bien plu. Et aussi avec le son asynchrone, avec de la musique et un peu de commentaires de la manière de Nestler, peut-être un peu, mais que je ne connaissais pas encore à l'époque. Des commentaires très secs qui expliquent les relations qu'il y a, les heures de travail, la paye et tout ça. Les vendanges. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à faire des films documentaires.
Et le premier que tu fais, donc, c'est Oliva Oliva, alors?
Il y a eu des courts-métrages avant.
Oui.
D'accord.
Oui. Et bon, Oliva Oliva, c'était aussi un projet comme ça. J'avais envie de faire un court-métrage sur cette expérience avec les apiculteurs. Et puis finalement, c'est devenu un long métrage, un court long métrage. Et j'avais pas du tout pensé à faire une production, mais j'avais invité à Hanovre un cinéaste espagnol qui vivait à Paris à l'époque, Angel Diez. Il avait fait un film sur Jean Eustache que j'avais vu en Espagne et que je trouvais très bien. Alors je l'ai invité à Hanovre et je lui ai montré à l'occasion un prémontage vidéo de ce que j'avais fait à Salamanque. Il trouvait ça très bien. Il a dit, ah, il faut que je montre ça à mon producteur. C'était à Paris, Zeugma Film. Alors, je lui ai envoyé une cassette vidéo pour voir. Et puis il a dit, oui, c'est très intéressant. Et pas beaucoup plus. Moi, j'ai continué à travailler sur le film. Ça a duré très longtemps. J'ai pu travailler à l'école des Beaux-Arts d'Hambourg, parce que je connaissais Jan Peters, je ne sais pas si vous connaissez.
De nom.
Qui vient de Hanovre aussi, qui vivait à Hambourg à l'époque. Et son prof, il m'a payé la pellicule pour faire le gonflage. Et ils m'ont laissé travailler sur la table de... Comment ça s'appelle, de trucage.
T'as monté en pellicule?
Oui. Ah. Et j'ai filmé le Super 8, j'ai fait un gonflage à 16 mm.
D'accord.
Dans un... Comment ça s'appelle,
Kinescopage.
Oui, avec un projecteur Super 8 et une caméra 16, image par image. Et il fallait passer de 18 images à 24 images. Donc répéter chaque troisième image. Et un autre mec m'a prêté un appareil, un ordinateur. Il avait écrit un programme, c'est un vieil ordinateur de la RDA, un programme qui faisait que la machine travaillait de cette manière, trois images projecteur, quatre images la caméra. Et là, j'ai travaillé jour et nuit, une semaine, pour faire le gonflage. Et puis, après mettre le son, il y a un autre mec à Braunschweig qui m'a aidé pour faire le transfert de son sur la bande magnétique 16. Tout ça, c'était beaucoup de bricolage. Et finalement, quand le film était terminé, j'ai écrit à Michel David à Paris, le film est terminé. Il dit, ah, super, je veux le voir. Et je suis parti avec ma fourgonnette que j'avais à l'époque, avec un projecteur double bande derrière pour lui montrer le film sur double bande dans son bureau. Et quand je suis arrivé à Paris, on a essayé de le montrer. La lampe était cassée. Il fallait chercher une lampe à Paris. Et on l'a trouvée près de Bastille. Il y avait plein de magasins de cinéma. Et puis il a vu le film, il trouvait ça très bien. Et il a dit, oui, il va essayer de le présenter à des festivals. Il voulait d'abord le vendre à la Lucarne, à Arte, ça n'a pas marché. Bon, ça a duré aussi 2 ans. Après, le FID a pris le film. Et voilà, et comme ça, il a pris vie. Après, j'avais fait 3 versions. De son, d'abord en allemand, après en français et après en espagnol, toujours parlé par moi-même.
Il y a 3 versions du film, ça veut dire?
Oui, il y a 3 versions.
Parce que je me demandais pourquoi c'était en français la voix. Mais c'est parce que c'est en France que tu projettes.
Oui.
Mais si c'est projeté en Allemagne, c'est la voix et en allemand.
Oui.
D'accord.
Et là, j'ai une copie en 16 en allemand. Et en France, après le festival, il a trouvé un distributeur, les films Sauvages, et ils ont fait 5 copies 35.
D'accord.
Avec une aide, et
en français.
Fantastique. Ouais.
La parole en français.
Oui. Ouais.
Est-ce que c'est...
Il y avait une sortie en salle, en 2006.
C'était prémédité de faire tout ce travail laborieux quand même au niveau du son et de l'interprétation.
Non, mais ça venait, il fallait le faire.
Mais le sous-titrage n'était pas un moyen plus simple pour...
Non, je crois pas, parce que incruster un sous-titre dans une image pellicule, c'est cher aussi et difficile. Moi, je ne savais pas très bien comment faire. Et je préférais aussi avoir la voix chaque fois.
T'es trilingue. Parce que, allemand, oui. Français, espagnol. T'es non seulement un professeur de français, mais t'es un professeur de langue.
Non.
Parce que le film Oliva, il commence justement par cette phrase.
Oui, quand j'étais en Espagne, je donnais des cours d'allemand et de français pour survivre. Cours particuliers. Ouais. Mais sinon, non, je ne suis pas prof.
Et ta voix, tu l'as écrite en allemand ?
Ben, c'était le journal que j'avais écrit en allemand.
En allemand, ouais.
Voilà, c'est pour ça que c'est la première version en allemand. Et j'ai pas voulu faire à partir de ça un texte pour le film. Je voulais l'utiliser tel quel. Bon, j'ai raccourci un peu, j'ai enlevé des parties. Mais en fait, c'est ce que j'avais écrit pendant le voyage. Et puis j'ai fait la lecture, je me suis construit une cabine pour enregistrer le son. C'était des couvertures, c'était comme une cabane où j'ai passé aussi beaucoup de temps et c'était affreux de répéter toujours les phrases, il y avait toujours des fautes. Et bon, finalement, c'est très monotone ma voix, mais elle est comme ça, mais c'est aussi dû à cette forme d'enregistrement. D'essayer d'avoir toujours la même hauteur, le même volume, la même distance au micro.
Et c'est une pratique d'écriture de journal que tu as souvent ?
Non.
Non,
non, j'avais pas de journal.
Mais juste pour dire, parce que là pour les auditeurs on parle d'un film, juste qu'est-ce qu'on pourrait en dire comme une sorte de petite présentation pour qu'ils se fassent une idée ? Tu résumerais comment, toi, David ?
Bah, peut-être on peut lire...
Tu peux peut-être lire du deuxième film ou du premier ?
Oliva, pardon. Juste pour que le spectateur...
C'est un journal. Un journal filmé et photographié. Ce qui nous introduit au cœur de la vie d'apiculteur dans l'extrême-adure espagnole. Peter Hoffman a tourné ce film pendant 2 mois en solitaire. Muni d'une caméra Super 8, il a rejoint la famille Oliva, espérant filmer la récolte traditionnelle du miel avant leur expulsion de leur propriété, la finca. Mais un jour après jour, cette aventure burlesque se transforme en road movie à travers la partie la plus reculée d'Espagne, sur les traces de Buñuel et du mythique Las Huertas.
La sourdesse, Terre sans pain en français, non ? Le titre.
Ouais.
Ouais.
Voilà. Donc, pour que. Ça mêle le film d'archives, photos et vidéos Super 8. Qu'est-ce qui est venu en premier ? C'est l'envie de filmer, comme l'année dernière, comme le premier film documentaire ? Ou est-ce plutôt. Comment c'est venu l'idée de mêler les archives ?
Mais l'année dernière, je l'ai fait après.
Oui.
Après.
Ouais. Je parle, voilà, Oliva, l'introduction du film de Buñuel, le pain.
Le pain. Terre sans pain.
Oui, terre sans pain. L'idée est venue après.
Après.
Mais j'avais déjà l'appareil photo parce que je savais, avec très peu de pellicules, je vais utiliser des photos aussi pour accompagner ça. Je ne sais pas si j'avais déjà fait. Oui, dans le film sur les vendanges que j'avais fait avant, j'avais utilisé pas mal, très bien, parce que comme l'image filmée était très mauvaise, ça donnait une tranquillité au film, les photos.
Ce film journal est décrit de visite à la famille d'apiculteurs Oliva à la Salamanque, en Espagne. En août et en septembre 1998, au moment de la récolte du miel. Le film décrit le monde et le travail des apiculteurs du point de vue d'un ami, c'est-à-dire le fils d'Oliva, Manolo.
Nono.
Et en même temps d'un étranger, c'est-à-dire Peter.
Oui, c'est moi.
Comme une aventure en partie exaltante et en partie déprimante. Le matériel de départ est constitué d'enregistrements Super 8, de photographies, certaines en couleur, d'autres en noir et blanc. Il y a aussi des images du film, les Huardes de Buñuel, qui proposent des liens avec l'histoire des olivas à plusieurs égards. Voilà, tourné en 16 mm.
Super 8.
Super 8.
Qu'est-ce que tu peux dire de la question du temps et des photographies et du Super 8? Comment ça travaille le temps différemment, la photographie dans ton film?
Il y a des scènes avec où les photographies restent longtemps sur l'écran. Et moi, ça m'a étonné de voir comment ça marche bien. Par exemple, il y a une photo dans une banque où on voit la photo et je raconte toute l'histoire qui s'est passée dans la banque, que j'avais pris une photo qu'un gardien de sécurité m'avait observé, m'avait vu et appelé le directeur pour lui dire « ça va pas ». Et pendant tout ce temps-là, on voit la photo sur l'écran, et pour moi c'était un très bon effet de se concentrer sur un fait, tandis que l'image qui bouge fonctionne autrement. On suit une action sur l'écran, on écoute peut-être moins le commentaire, et la même chose passe avec le bruit et le silence. J'ai souvent un bruitage, et puis je l'enlève, je vais dans le muet complet, et là, tout d'un coup, ça a l'air de devenir plus important, les paroles, quand il n'y a pas de bruit de fond. Et j'ai joué avec ça aussi, d'accentuer de temps en temps quelques scènes par des photos ou par du silence. Donc enlever le mouvement et enlever le son pour avoir plus d'intensité.
De séparer les éléments, enfin que le son soit pris pour le son, l'image pour l'image, et que tu sois pas dans un effet de direct ou de naturalisme. Enfin, on sait que c'est des images, mais parce qu'aussi tu parles de ça, enfin de qu'est-ce que c'est faire des images, j'ai l'impression, dans le film. Et de ta position de filmeur, de ce que ça implique.
Oui. D'un côté, c'est le fait de voler l'image à quelqu'un. C'était au départ, quand j'étais étranger dans la famille. Bon, je connaissais bien Nono, qui avait vendangé avec moi, mais je ne connaissais pas ses frères et ses parents. Ils étaient très accueillants, mais quand même, de venir comme ça, filmer ce que vous faites là, ça me dérangeait un peu. Alors j'ai essayé aussi de les aider, de rentrer un peu dans l'ambiance et dans le travail. Et puis, oui, je parle de ça dans le film. Et je parle aussi de la forme de filmer. Par exemple, dans l'atelier, quand ils mettent le miel en pot, de comment filmer ça de manière classique, avec un découpage.
Et que tu avais l'impression d'arriver toujours en retard par rapport aux opérations qui s'effectuent au jour le jour, et que tu dis que c'est pas grave parce que...
Oui, ça aussi.
Finalement, c'est comme ça. Hein, comme eux. Des fois, on rate le début. Et parce qu'il y a un temps à chaque action qu'on ne peut pas mettre. On ne peut pas maîtriser la réalité des choses, finalement. Ça nous échappe. Mais c'est dans l'action que se justifient les moyens de cette intrusion.
Oui, c'était encore plus fort dans l'année dernière, dans le film Au Vendange.
Voilà.
Que par exemple, quand on rentrait de la ville, je me demandais, est-ce que je vais prendre une douche ou est-ce que je vais rater une scène que je voudrais filmer. Je pensais toujours, qu'est-ce que je peux faire pour être là au bon moment. Et donc ça, c'était un stress tout le temps, aussi dans la vigne, parce que je demandais au patron, est-ce que je peux arrêter 5 minutes pour filmer, Ils ont toujours dit oui, oui, l'estonso. Et puis j'ai couru au camion chercher la caméra pour filmer quelques plans. Mais en travaillant, tout le temps, j'ai pensé, est-ce que c'est un bon moment pour filmer ou non? Et où est-ce que je pourrais m'installer avec la caméra? Donc c'était vraiment stressant, toutes ces vendanges, de penser toujours à deux choses en même temps et comment faire pour pas rater les bons instants. Et finalement, j'allais chez d'autres, dans d'autres maisons, avec la caméra avec moi. Et j'ai rien fait. Et quand j'ai eu l'impression, là, il faut se préparer, j'ai amené la lampe, j'ai installé une lampe, j'ai éclairé une salle obscure, un garage où il n'y a normalement pas de lumière. Mais les gens sont très vite habitués à la lumière. Et puis, comme ça, je pouvais filmer sans que ça dérange trop.
Mais justement, là, tu utilises tout à l'heure, pour revenir à ce terme-là, tu utilises le terme « voler des images ». Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là? Qu'est-ce que tu pourrais en dire sur ce qui m'intrigue, ce terme fort, quoi?
C'est peut-être les idées qu'avaient à l'époque les Indiens qui étaient confrontés à la photographie. Quand les ethnologues faisaient des photographies des chefs indiens qui disaient que... qui ne voulaient pas qu'on fasse des photos parce qu'on leur volait leur âme. Ouais. Et c'est peut-être un peu ça, mais de leur voler leur intimité aux gens qu'on filme, de doubler quelque chose sans qu'eux puissent intervenir. Et là, j'explique aussi que... Ce premier petit tournage dans la salle de là où ils mettent le miel en pot, ils savaient que je voulais filmer, alors ils ont nettoyé, ils ont tout nettoyé, ils ont tout mis en ordre pour qu'il y ait une belle image de leur travail. Et moi, je voulais plutôt filmer comment ils travaillent en réalité, dans le désordre. Et puis j'ai compris qu'ils ont bien le droit aussi de se préparer pour une image comme
de
moi je
prépare. Quoi. De s'approprier leur propre image, quoi.
Oui. Oui.
Parce que là, en effet, c'est le moment où il s'agit de la marque commerciale, du produit. Tu imagines, pour un apiculteur, pour un artisan du miel, c'est le moment.
Oui, tu as raison. C'est l'étiquette qu'on voit, même s'il est flou.
Moi, c'est très intéressant cette discussion autour de l'impression que provoque l'image fixe comparée à l'image qui défile. Et j'ai trouvé ça assez juste dans la manière où tu expliques la dernière année, ton premier film autour des vendanges à Razignac, comparé à Oliva, où le tournage a duré que 2 mois, les vendanges, ça a duré 20 ans.
Non.
Et c'est depuis 20 ans, en fait, si je vois le résumé du film.
20 ans qu'il va faire les vendanges.
Il va faire les vendanges, oui. Voilà. C'est pas... Donc, en même temps, donc, voilà, il se préparait pendant une longue, longue période pour arriver à cette captation en direct de la vie dans les vendanges. Et donc, ça se passe à Razignac, dans les Pyrénées-Orientales. J'y vais, je travaille, je filme en pellicule, travail de la vigne, travail de la caméra sont indissociables. Le temps qui passe, la dernière année, la disparition de la pellicule. Ça veut dire que finalement, les images défilantes finissent par disparaître, on les consomme trop rapidement, alors qu'une image fixe, c'est une empreinte, c'est comme ta manière au montage où tu interposes des images fixes et des fois par répétition, hein, chaque chapitre on les revoit, les mêmes images qui reviennent comme une impression, une trace qui reste. C'est peut-être pour un peu effacer cet effet de défilatoire, cet effet qui disparaît, de la disparition de l'image par l'impression, par la photo, pour appuyer à cet instant qui dure
Oui, qui s'inscrit plus dans la mémoire. En fait, tout le film est une... L'idée, c'est d'avoir une mémoire de ce qui s'est passé pour moi-même.
Un souvenir de fixer
un peu un souvenir de... Oui, pour avoir quelque chose qui dure.
Mmh. Ouais. Qui dure
c'est
par
comme
de
les photos d'enfance. Quand on ne faisait pas encore tellement de photos, il y a quelques photos, mais beaucoup de souvenirs sont liés plutôt à ces photos. On ne sait même pas si on se rappelle vraiment de ce qu'on a vécu à l'époque ou si on se rappelle plutôt à la photo et aux histoires qu'il y a autour de la photo. Mmh. Oui, c'est un support de mémoire.
C'est un peu ce que tu, dans le film que tu es en train de finir... Il y a quelque chose comme ça, David, par rapport à Ne me guéris jamais. C'est un peu ça aussi comme interrogation. Tu vas chercher la mémoire, le souvenir.
J'interroge un... Ouais, il joue dedans. C'est un des personnages principaux. Et il joue avec un ami qui est non-voyant. Et du coup, je lui demande... Enfin, qu'est-ce que c'est la mémoire quand il n'y a plus d'image, quoi. Parce que lui, il n'a plus d'image. Donc, ça rejoint un peu ces questions. Mm-hmm. Quoi. Ouais. Moi, ce qui m'étonnait... Enfin, ce qui m'intéressait là dans... La manière dont tu parles de ton travail, c'est que j'ai l'impression que tu veux rendre la machine cinéma la plus discrète possible, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe de tournage et que toi, tu es en train de travailler et que finalement, tu désacralises le... Enfin, c'est pas le studio de cinéma qui arrive dans un village et qui dérange tout le monde pour que les gens obéissent au désir de cinéma. Là, j'ai l'impression que tu te mets à une position de
subir ce temps.
D'éprouver, en tout cas, un travail. Et en même temps, tu es habité par l'image. Mais tu as besoin, physiquement, de partager avec les gens que tu filmes aussi. Et ça, c'est sûr que ça doit être très, très difficile à faire. Hein. Enfin, de faire les deux en même temps, c'est...
Oui, mais je crois que c'est aussi dû aux moyens économiques, d'abord, de ne pas avoir d'équipe. Et puis aussi une certaine timidité que j'ai. Et je pense que filmer des gens, c'est très difficile. Faut oser le faire. Et il faut connaître la personne pour s'approcher, pour faire une photo de son visage. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de filmer des gens que je connais, qui me connaissent, où il y a une confiance, que de filmer des gens que je connais moins. Et j'imagine pas être un journaliste et tenir la caméra et viser les gens pour les filmer. Et le résultat me donne raison, je pense. Je suis beaucoup plus proche... C'est plus intense ce qu'on peut filmer comme ça.
Oui, il y a de la générosité.
Des deux côtés.
Ouais, voilà. Ouais.
On a un peu négocié. Par exemple, il y a une image dans la dernière année que tu n'as pas vue. Une fille qui se coupe les ongles des pieds. Elle voulait avoir mes ciseaux pour se couper les ongles. Je dis, je te donne des ciseaux si je peux te filmer.
Mmh. Ouais, tu dis le.
Ah. Mmh. Et comme ça, avec le guitariste Rappi aussi, je lui dis je veux le filmer avec la guitare et lui, il impose ses conditions qu'il faut le faire le matin avant de prendre le café. Ouais.
Thank you.
Mais par rapport à ce que vient de dire David aussi sur cette manière que tu as de te mettre en jeu, d'être discret par rapport à toute l'équipe de cinéma, tout ça, j'ai l'impression que c'est aussi une continuité par rapport à ce que tu disais sur tes premiers films, quoi. C'est-à-dire tu désacralises la position de l'artiste ou du cinéaste, quoi. Ça, c'est un peu toujours imprégné depuis le début ta manière de faire des films, quoi.
Ah ouais, j'y ai pas pensé, mais peut-être.
En tout cas, moi, c'est ce que je me raconte dans ce que j'entends, quoi, parce que tu participes au travail, il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui font un film en faisant le travail qui filme, quoi, tu vois, c'est quand même une pratique.
Pierre Creton, un peu.
Oui, il y a Pierre Creton, je ne sais pas si tu connais comme cinéaste.
De nom, oui, mais malheureusement, je n'ai pas vu ses films. Et Ophid, quand il y avait Oliver Ophid, lui aussi, il y avait un film sur les vaches, je crois.
Contrôleur laitier, oui. À chaque fois, il est ouvrier agricole. Et du coup, il a aussi été apiculteur. Et après, il met en scène par rapport au travail qu'il a effectué, quoi. Mais peut-être la différence avec toi, c'est qu'il écrit beaucoup ses films. Du coup, il y a des scénarios. Toi, est-ce qu'il y a une écriture avant ?
Non.
Non.
Non, il y a juste... j'avais un catalogue d'images que je voulais prendre au vendange. Comme je connais le déroulement... L'arrivée à la vigne, le travail à la vigne, les pauses, la fête au village, dans les maisons. J'avais plein d'images que je voulais filmer. Une liste, mais finalement, j'ai fait d'autres choses, ce qui est d'ailleurs mieux. Des choses qui n'étaient pas prévues et pas prévisibles, comme le rappi qui se brosse les dents dans la rue. Ça, c'est des images super, je trouve. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et puis les oiseaux sur le fil, ça aussi, c'était... Ils viennent tous les ans. À une époque, c'est des oiseaux migrants.
Des tourneaux,
non ? Oui. Il y a un jour, pendant les vendanges, tout est plein d'oiseaux et puis ils repartent.
Et tu dis que, donc, est-ce qu'on ressent vachement, parce qu'il y a, que ces films, pour toi, ce qui t'a donné le désir de les faire, c'est avoir envie de garder une trace, un souvenir, une mémoire, et qui est vraiment un geste fort dans le cinéma, et je mets entre guillemets dit documentaire, parce que ça, mais en tout cas qui documente au final une expérience, et tu la documentes de façon très, on va dire très... très amateur, mais dans le sens noble de l'amateur, où il y a quelque chose de l'ordre aussi du film de famille, on va dire. Mais du film de famille dans le sens noble, pas fermé, parce que c'est chaque fois tu documentes une communauté aussi, que ça soit dans ton film sur voilà, et puis là sur les vendanges tu documentes une famille, tes films sont, même s'il y a quelque chose de très inscrit dans ton personnage comme point de voir et point d'écoute, on assiste aussi au déroulé d'une communauté et de comment les personnages de cette communauté se débrouillent dans la vie passée, la vie présente et la vie à venir, quoi.
C'est des moments intenses pour moi. Par exemple, ce mois de vendange, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que c'était important pour moi, une situation importante. C'est pas pour rendre compte de quelque chose par intérêt politique, par exemple. Ça pourrait être aussi un film qui conteste les conditions de travail précaires qu'on peut faire pour dire que ça va pas, qu'il faut changer, qu'il faut mieux loger les gens, qu'il faut mieux les payer, et tout ça. Ça, c'était pas mon intérêt. Pour moi, c'est plutôt une situation très riche que je voulais documenter. Oui, parce qu'elle était importante pour moi. Et pas dénoncer.
Mais si tu dis qu'il n'y a pas d'écriture préalable au film, par contre, il y a beaucoup de montage, non ? L'écriture, oui. Sur montage...
Montage sans écriture aussi, mais en essayant de rassembler les images d'une...
Et sur combien de temps tu montes ? Ça dure combien de temps, le montage ?
Ça a duré assez longtemps.
C'est toi qui montes ? T'es tout seul ?
Oui. Pour Oliva, c'était moins long, peut-être moins difficile, parce qu'il y avait le guide du journal. Et j'étais dans le studio d'un ami qui avait un avid. Et moi, je lui ai dit, je commence par le son, par monter le son. Il a dit, ça va pas, il faut commencer par l'image et après on met le son. Je dis, non, pas dans ce cas-là, il faut commencer avec le son. Et après, placer les images, et c'était assez compliqué parce qu'il y avait toujours le décalage. Les images ne sont pas prises au même moment que le texte écrit, et de mettre ça en relation avec les cartons, c'était compliqué. Les cartons font référence à la voix et pas aux images. Alors j'ai dit, le matin chez les parents, et on voit une image de l'atelier, il y a des contradictions, il faut que le spectateur comprenne peu à peu comment ça fonctionne. Et moi aussi je devais comprendre peu à peu en le montant comment ça peut fonctionner pour mettre la voix et les images ensemble. Et pour l'année dernière, c'était plutôt comment donner un rythme. Je voulais d'abord le rythme de la journée et puis le rythme des vendanges et l'écoulement du temps, de parler du passé, de l'avenir, de la tradition qu'il y a aussi dans dans les vendanges.
Ok. Et tu participes aussi à d'autres films ? On peut en parler un peu, peut-être. T'as participé au film de Nicolas Rey, autrement La Molucie ?
Oui, mais c'est un cas à part, c'est pas si...
C'est à part, c'était...
Normalement, je participe pas dans des films... Pourtant, moi, souvent dit, « Ah, avec ta voix, tu devrais travailler à la radio ou à la télévision. » Mais Nicolas, il faisait un film sur... Günther Anders, sur un livre qui n'était pas traduit en français, et il avait beaucoup lu de et sur Anders, et il était intéressé par ce livre qu'il ne pouvait pas lire. Il a cherché quelqu'un en Allemagne, quelqu'un qui parle allemand, pour lui raconter le livre ou pour lui lire le livre, et pour faire un film sur ce livre en même temps qu'il le découvre. J'ai trouvé ça très risqué, très fort. Et puis il a commencé à tourner des images en même temps que moi. Il m'avait demandé d'acheter le livre en Allemagne et de chercher des chapitres pour son film, parce qu'il voulait la lecture de chapitres de ce livre, et lui il pouvait pas les choisir. Il m'a demandé de faire un choix et de lui donner un peu de faire des traductions, des comptes rendus de ce que le livre racontait, et puis de choisir des chapitres
avec des indications. Il te donnait des indications un petit peu pour choisir ces chapitres?
Non. Mais bon, il savait plus ou moins de quoi ça parlait, mais pas dans les détails. Et c'est tous des petites anecdotes séparées. C'est pas un récit, comment dire, continu, mais c'est deux prisonniers politiques qui sont dans une prison, dans une cave, dans le noir, et qui sont le plus vieux raconte au plus jeune des histoires, c'est toujours des petites histoires, c'est pour transmettre une mémoire et pour garder une idée de révolution à travers un temps, c'est le nazisme, où on ne peut pas agir, mais pour transmettre la tradition de l'idée révolutionnaire, il sait qu'il va mourir et qu'il raconte à ce jeune prisonnier ses expériences ou des histoires qu'on lui a racontées. Voilà.
Il y a toujours cette notion de mémoire, quoi.
Oui. Okay. Et puis, il voulait que, pour le film, que je lui traduise en direct, en prenant le livre allemand, et lire le livre allemand, mais lui dire en français ce qui a marqué. Et on a fait des essais, mais ça ne marchait pas, j'étais trop lent. Ça durait trop de temps. Et finalement, j'ai fait la lecture en allemand. Et il a sous-titré.
D'accord.
La lecture.
Ouais. D'accord. Et moi, ce que j'ai un peu regardé la filmographie dans la revue de Rive de Peter Hoffmann.
Il n'y a pas de filmographie de Peter Hoffmann dans Dérive.
Non. C'est le lien que je t'avais envoyé, mais c'était pas sur Dérive.
C'est pas sur Dérive.
Sur quel site?
Tu confonds. Je sais pas, je m'en rappelle plus.
Ouais, c'est pas sur Dérive.
Alors, voilà, ce passage du film expérimental au film documentaire, j'ai trouvé quand même qu'il y a... il y a un personnage, Peter, c'est... il cherche à quelque chose à travers le cinéma. Et il ne fait pas le cinéma comme un artisan, mais il pratique le cinéma comme étant un chercheur, un anthropologue du cinéma, je pourrais dire, puisque ce passage quasiment prémédité, je dirais, du film expérimental où il se permet, avec Robert France, toute cette période des années 90 à critiquer tout ce qui ne marche pas dans la société, l'absurdité du sport, de la politique, de la société, de la religion, l'urbanisme, l'écologie et même le crime, les zones de réaménagement.
Oui, mais tout en forme un
peu critique en forme du capitalisme de blague. Et du communisme. Et après, au passage du documentaire, J'ai l'impression que à travers le mélange des ingrédients, des éléments filmiques, les archives, la photo et la pellicule, il cherche à définir la place du cinéaste et que peut faire le cinéma, puisque finalement il reste pour faire face à cette réminiscence. Le temps il coule, le temps est fluide. Et entre les deux, entre le film d'archives qui nous rappelle à cette mémoire, qui n'est plus peut-être même pas mémoire, puisqu'il faut faire son historicité, et le présent qui défile, et la pellicule avec, et reste la photo, qui peut-être c'est cette âme qui reste du film, et qui laisse une trace, peut-être, et qui part et qui revient. Et je me suis dit, finalement, ça n'est pas un artiste. C'est un artiste. Mais un artiste d'une espèce, d'un genre particulier, c'est un chercheur dans le cinéma, puisqu'il se confronte à la difficulté d'être en faisant le film documentaire. Et il cherche peut-être qu'est-ce qui reste finalement.
C'est peut-être un peu trop de louanges parce que j'ai pas fait autant de films et depuis 10 ans j'en ai plus fait. Je suis pas vraiment un chercheur qui cherche tout le temps. Je suis content d'avoir pu faire ces deux films-là et je pense que c'est aussi surtout pour moi-même que je les ai faits et pas pour. Pour, comme tu dis, définir quelque chose pour le cinéma. Bon, ça m'intéresse beaucoup, oui, c'est de comment évolue le cinéma et quelle place mes films peuvent avoir là-dedans, mais pas avec l'idée d'imposer, je ne sais pas, un modèle ou nouveau. De nouvelles idées. Théorie.
Là où je voulais en venir, c'est que si dans tes prochains films, est-ce que tu garderais toujours cette cette envie d'être, ou peut-être ce besoin d'être, cette difficulté existentielle de faire un film, et de se mettre toujours en épreuve, et de ne pas tomber dans la facilité, comme le souhaitent la plupart des, oui. des faiseurs de films, de faire un bon film, quoi. Et non pas ce film, justement, où on est face à quelque chose de nouveau, qui se transforme et qu'on est dans l'incapacité, dans l'impossibilité de capter le réel, finalement, qui nous échappe. Je suis dans la salle de bain, et les autres, ils vivent. Il y a la vie. Et je suis en train de rater la vie à côté.
Oui, c'est vrai. Ça doit être important, et sinon... Je pense qu'il y a assez de films dans le monde pour faire des films, juste pour faire des films, c'est pas la peine. Faut que vraiment qu'il y ait un besoin de le faire, pour moi. Sinon, c'est trop de travail aussi.
Et pourquoi depuis 10 ans, alors, il n'y a plus ce besoin ?
Il y a peut-être encore un peu le besoin, mais je remarque que j'ai plus le temps. D'abord, à cause de la petite famille que j'ai, où j'ai plus je peux plus voyager comme je peux. Même à la maison, je peux pas travailler pendant une semaine, m'enfermer avec un projet. Et puis en même temps, je me suis occupé beaucoup plus de la salle de cinéma, où on est moins de personnes et où j'ai beaucoup plus de travail qu'avant, où je pouvais m'absenter facilement. Maintenant, j'y suis tout le temps et ça, les deux choses remplissent les journées.
Et t'as jamais eu envie que de faire des films soit lié à une économie qui te permette de libérer du temps ?
Comment ?
T'as jamais eu envie que faire la réalisation de films soit lié à une économie qui te permette de libérer du temps ?
Non. Même dans la salle du cinéma, on travaille sans argent, on n'est pas payé. Et moi, je vis depuis presque toujours du chômage. Et j'ai toujours évité de le travail rémunéré.
Et pourquoi ?
Pour être plus libre. De faire des projets, travailler sur des projets concrets, ça oui, mais avoir un métier, un travail régulier, jamais. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait des études d'art, parce que je voulais pas avoir un métier. Je pensais que en faisant de l'art, j'arrive à rien du tout, c'est mieux.
Mais du coup, je trouve la force d'Oliva Oliva, c'est que c'est fait dans une économie de moyens, et que du coup, ça devient une richesse, cette économie de moyens. Mais dans ta propre vie, peut-être que c'est pareil aussi. Alors, je sais pas, mais si t'es pas dans une activité salariale, j'imagine que tu vis de peu aussi.
Oui.
Et du coup, ta manière de vivre est aussi fidèle à ça.
Oui, c'est ça. Avec un minimum. Et là où les gens ont maintenant le pantalon cassé ici, moi je l'ai cassé ailleurs. Et je me dis, j'ai bien le droit de m'habiller pauvre aussi, avec ce que j'ai. Voilà.
Et c'est lié à un engagement politique, en ce moment, on parle de la décroissance, par exemple, par rapport à l'écologie, où il faut... Non.
Non. Peut-être que ça vient même de l'éducation d'après-guerre que j'ai reçue. Bon, moi, je suis né en 57, mais mes parents... Mon père a fait la guerre, et puis mes frères et sœurs aînés, ma sœur aînée, elle a 20 ans de plus, sont nés pendant la guerre, et on a tous subi une éducation de non-gaspillage, de faire beaucoup attention, d'éteindre la lumière tout le temps. Je crois que ça m'a beaucoup marqué, de pas dépenser d'argent comme ça, de vivre avec très peu.
Et à Hanovre, alors si tu voyages moins, tu es heureux là-bas de vivre?
Est-ce que ça te... Non, je suis plus heureux à Marseille en ce moment. Non, c'est, je suis pas heureux. Il y a des bons moments, mais la vie découle un peu de manière très régulière. Je préférais que ce soit un peu plus agité. J'avais commencé un film aussi sans vouloir de vraiment faire un film. C'était venu quand ma fille est née. J'avais prêté un appareil photo d'un beau-frère et j'ai commencé à filmer 3-4 jours après la naissance. Tout ce qui se passait, tout ce qu'on faisait, les visites chez le médecin, les gens qui venaient voir le bébé, des voyages. Et ça pendant 9 semaines. Après, j'ai dû rendre l'appareil photo. Et puis ça, c'était le matériel. Et avec ça, je voulais faire un film aussi. Ça, c'était le dernier projet. Et j'ai fait un montage sur ordinateur. Et j'ai compris que ça marchait pas pour moi à cause du son synchrone de la caméra vidéo. Ça me faisait trop reportage et ça m'embêtait d'avoir des images avec le son direct. Et j'avais pas d'autre enregistrement de son, alors je savais pas très bien quoi faire. Mais j'ai eu l'idée de refilmer sur pellicule ce que j'ai filmé. Alors j'ai passé l'image sur l'écran vidéo, l'écran de l'ordinateur, image par image, et j'ai filmé image par image avec une caméra super vite d'abord, mais il n'y avait pas assez de lumière, et après il y avait une caméra 16 mm en noir et blanc, et ça marchait très bien. Ça donnait tout d'un coup du cinéma, une image muette en noir et blanc, où les lignes vidéo se mélangeaient avec le grain. Et je pensais qu'avec ça, je pourrais travailler. Mon idée, c'est peut-être un jour, quand j'aurai plus de temps, de continuer avec ça. Mais c'est un peu difficile parce que les sensations que j'ai eues à l'époque, quand j'ai fait les images, elles ont un peu disparu. J'étais un peu embarrassé parce que Monica, ma compagne, qui était la mère, qui était toujours avec le bébé, je me sentais un peu écarté. Et le cinéma m'a permis, en les filmant, de participer à travers le filmage aussi, de me sentir un peu plus près. Mais quand j'ai vu les images, je me suis dit c'est comme si c'était une mère célibataire qui, avec son enfant, on ne voit jamais le père.
Et d'ailleurs, dans Oliva, quand tu pars, tu vas prendre le train, tu dis je vais avec Monica, non?
Ouais.
Mais c'est-à-dire qu'elle elle t'accompagnait là-bas? Elle était...
Je vivais avec elle déjà, mais pas... Elle avait un autre copain, mais on habitait ensemble à Valladolid.
D'accord.
Je la connaissais déjà. Et elle avait fait ses études à Salamanque, alors elle venait à Salamanque.
Elle est hors champ, quoi. Enfin,
Oui. J'étais déjà un peu amoureux. On n'était pas encore un couple.
Tu savais pas la suite de l'histoire.
Et ben là, on arrive vers la fin de l'émission. On pourrait un peu parler de la salle.
Ouais.
Hein, toi, tu étais un...
Non, mais juste de comment tu mêlais ce travail de faire des films et de vouloir en montrer. Comment ça se...
Ah oui, ça, c'est très important. Le mélange, je crois que c'est le travail dans le cinéma qui m'a permis de faire des films qui sortent un peu de mon cercle serré... Parce qu'à travers le cinéma, les gens qu'on invite au cinéma, les gens que j'ai pu connaître par le travail de programmation, j'ai eu beaucoup de contacts qui m'ont permis de travailler, et de diffuser, d'être invité, de voir aussi d'autres films. Et Jan Peters, par exemple, quelqu'un qui... qui était à Hambourg, qui venait montrer ses films à Hanovre, et où il y a eu une relation qui m'a permis de travailler à Hambourg. Thomas Bartels, quelqu'un de Braunschweig aussi, qui a un studio qui fait du film expérimental de, sur la table de trucage, beaucoup, qui m'a aidé dans les questions techniques. Donc ça et le, comme j'avais raconté, l'espagnol Angel Diez qui m'a mis en relation avec son producteur. Pourtant lui, il a dit son producteur, mais il a jamais fait de film avec lui. ça n'a pas marché.
Ouais, donc pour toi c'est complètement lié la question de faire des films et d'en montrer, quoi. C'est vraiment quelque chose qui marche bien, hein, de diffuser, de réaliser. C'était un tout pour toi, quoi.
Oui.
C'est pour ça que t'as beaucoup investi cette salle de cinéma, quoi.
Oui. Et après, avec vous, avec le film, j'ai connu d'autres gens que j'invite à Hanovre. Il y a un réseau qui s'est construit. Bon, les autres gens dans la salle qui ont d'autres réseaux aussi. Tout le monde fonctionne un peu comme ça pour faire rentrer le monde dans la salle.
Et est-ce que tu vois une... Tu disais que ça faisait 20 ans que tu travaillais dans ce cinéma?
Plus.
30?
Oui.
Et est-ce que tu vois une... quelque chose qui change dans la manière dont de voir les films, au niveau du public, des spectateurs, enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça, sur 30 ans de passage de spectateurs dans la salle?
Ouais, moi, j'ai commencé à participer quand on construisait la salle dans le squat. Et là, l'idée, c'était que tous ceux qui faisaient partie de l'association... était dans la salle pour voir le film. On n'avait pas envie d'avoir quelqu'un à la caisse ou le bar hors salle, parce que cela ne pouvait pas voir. Tout le monde voulait voir les films qu'on passait, parce que on voulait absolument tout voir. Donc, et ce désir de tout voir, peu à peu, il a diminué. Parce qu'on a montré aussi moins de films au départ. Donc chaque film était beaucoup plus important. Maintenant, avec les années, on montre beaucoup de films. Et les films perdent en valeur par la quantité de films qui passent. Mais il y a toujours, surtout quand il y a des réalisateurs qui sont présents, et quand il y a des films qui sont présentés de manière spéciale, il y a toujours cette intérêt que la plupart de ceux qui font partie du cinéma viennent pour voir. Sinon, il y a d'autres séances, on n'en a besoin que deux pour entrée, bar et projection, et le reste ne regarde pas ou vient un autre jour. Mais il y a toujours ces moments où tout le monde est ensemble pour participer, pour discuter, pour passer une soirée. Qui souvent, quand il y a des invités, ça dure jusqu'à minuit, 2h la nuit.
Et le public s'est renouvelé? Ou c'est les mêmes depuis 30 ans qui...
Non. Non, le public a toujours changé. Et il y en a moins maintenant, c'est plus difficile. Et le public a quand même est devenu plus âgé comme nous. On a du mal à avoir un public jeune. On est pourtant dans un quartier d'étudiants de l'université, mais il n'y a presque pas d'étudiants qui viennent voir les films. C'est bizarre, mais apparemment, ils regardent plutôt les films en groupe chez eux sur ordinateur. Et je pense que maintenant... Les gens font moins confiance à une programmation proposée par une salle parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent regarder déjà avant sur Internet qu'est-ce que c'est comme film, est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou non. Et si on montre des films qu'on ne trouve même pas sur Internet, ça arrive aussi souvent, se disent ben, si ça n'existe pas sur Internet, ça veut dire que c'est rien du tout. Alors il manque cette confiance, non, cette confiance au programmateur de voir quelque chose d'intéressant. Et avant, je pensais que le public était jugé d'une autre manière. Il regardait pas trop le programme, mais il y a quelque chose, on va voir qu'est-ce que c'est, et, par curiosité. Et on fait confiance à la salle, que ce soit pas une merde, mais même si le film ne plaît pas, mais il y a toujours quelque chose à discuter.
Et est-ce que ça a une relation avec le passage de la pellicule au numérique?
Oui. Oui. Surtout sur la consommation de films. Je pense, oui. Parce que on peut, pour voir une... Il y a presque plus de salles qui font de rétrospectives de cinéastes parce que tout voir sur ordinateur, on ne va pas faire une rétrospective René pendant deux semaines dans une salle. Les gens ne vont pas venir voir les films parce qu'ils ont... C'est pas nécessaire, mais à l'époque, si tu passais Pasolini, c'est la seule manière de voir les films en salle. Alors les gens venaient. Maintenant, c'est plus la peine. Alors, faut faire d'une autre manière les programmations. On ne sait pas très bien comment, mais je crois que tout le monde est en train de chercher comment faire. Parce qu'il y en a qui proposent de faire des spectacles autour ou de faire plus d'animation que le film tout seul, ça ne suffit pas.
Peut-être faut faire ce que tu faisais au début, alors, peut-être.
Comment?
Bah, des choses un peu performatives qui provoquent un peu le spectateur, enfin, qui soient surpris, peut-être.
Oui.
Des choses,
Oui, mais les films n'osent plus trop.
Non, ils n'osent plus trop.
Et quand on passe des films des années 60, films indépendants des années 60-70, pour beaucoup de gens, c'est devenu trop dur de voir la provocation qu'il y avait à l'époque. Ils ne veulent plus la provocation. Et même à l'époque, je crois que les gens venaient plutôt pour passer des soirées ensemble. C'était j'ai l'impression que la fin des années 60, avec le mouvement des étudiants, est très politisé. Le cinéma était un peu comme de la musique, comme des concerts. On allait voir des séances, même pas dans une salle de cinéma, mais dans d'autres lieux où des films étaient projetés. Et c'était la fête, comme on rentrait, on sortait, on fumait des joints. Comme si c'était un concert. Et maintenant, non, c'est... Il n'y a plus ça.
Peut-être tu pourrais dire un mot sur le lieu là où, dans lequel on est, enfin, qui a un moment un peu, son histoire un peu...
Le polygone étoilé, ouais. Oui, ben, qui a 20 ans et dont le propriétaire privé va vendre et qu'on essaie de racheter par les institutions. Voilà, en espérant qu'on va pouvoir le racheter, parce que c'est de plus en plus dur de tenir des lieux comme ça à Marseille, encore plus avec les investissements qu'a fait Macron pour construire des écoles de cinéma qui sont plus des écoles de série, on va dire, que des écoles de cinéma. Et on n'est pas les seuls, d'ailleurs, à être un peu en difficulté, parce qu'il y a aussi le Vidéodrome 2 qui est en difficulté sur le cours Julien avec la gentrification et la concurrence des autres lieux autour de lui. Il y a aussi Dodescaden, qui est un lieu un peu aussi en difficulté. Le Labo L'Argent, qui est un laboratoire argentique, comme il y a à Paris l'Etna, qui est aussi en difficulté. Donc c'est un peu un moment de bascule, on va dire, concernant...
Parce que l'immobilier a très fortement augmenté depuis 2 ans, je dirais, quoi. Depuis le Covid, en fait, quoi. Et du coup, il y a beaucoup d'associations qui étaient dans des lieux assez abordables, et ça devient... Et en plus, il y a une baisse des subventions.
Ouais. Comme en toute période de crise, finalement, l'immobilier, c'est la monnaie sûre, quoi. Mais au-delà de ça, j'aimerais rajouter juste une chose, Lolo. Non seulement le polygone étoilé enferme dans ses locaux des salles de montage et une salle de projection qui relie des publics multigénérationnels, mais aussi c'est architecturalement parlant, c'est un lieu unique. C'est comme dans le jargon des architectes, ça s'appelle la table rase. C'est une pièce unique, l'une des rares de ce genre qui restait encore intacte. Donc voilà, je passe le mot aux amis, aux chercheurs en architecture, en urbanisme urbain, pour sauver ce lieu, non seulement de sa destruction, parce que on a, certes, dans l'espace où on se trouve, il y a un besoin imminent de places de parking, etc., mais j'espère bien que cette structure soit préservée pour la mémoire de l'architecture, aussi bien que le cinéma.
Voilà, vous êtes au Hugo, courant
peut-être
un peu.
Peut-être que tu peux dire quelque chose, non, sur le polygone.
Je trouve que c'est formidable de mettre ensemble la production et la projection de films, d'avoir les deux dans un même endroit, et en même temps un lieu de rencontre, une salle avec des tables où on peut... se rassembler après les films, un lieu de rencontre. Ça, c'est vraiment super. Et oui, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais te dire.
Non, mais tu as dit mais super.
Les problèmes que vous avez en ce moment, je pense que ça se passe partout. Ces questions d'immobilier, que toutes les associations maintenant ont l'air d'être obligés de se décider d'abandonner ou d'acheter les lieux où ils sont locataires. Et ça, c'est horrible, parce qu'au moment où on achète, ça devient quelque chose de très, très lourd financièrement. Les responsabilités montent pour ceux qui achètent. Le groupe... a besoin d'une autre stabilité personnelle aussi pour soutenir ça, tandis que c'est souvent des lieux de passage aussi, les gens restent pas trop longtemps, passent une partie où ils mettent leur activité dans ces projets et puis font autre chose. Si on devient propriétaire, et ben il faut une plus grande continuité personnelle aussi, ça c'est... Je trouve que c'est très difficile.
Oui, ça peut changer le projet.
Chez nous, ça va arriver aussi. C'est pas seulement le cinéma, c'est tout le bâtiment où il y a une cinquantaine de personnes qui habitent. C'était squatté. Après, il y a eu un contrat de 35 ans par la ville. Mais je pense que quand le contrat sera terminé, ils vont nous dire, voilà, maintenant on va vendre. Si vous voulez, vous pouvez acheter. Mais on va pas refaire le même contrat. Après,
oui, c'est un peu un phénomène un peu dans toutes les grandes villes d'Europe qui se passe. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci, on espère que tous ces lieux de cinéma vont perdurer. Merci Ouaïm, merci David, merci Peter. Donc vous retrouvez l'émission sur derive.tv en podcast et sur 88.4, et on se retrouve pour une prochaine émission. Bon retour à toi. Là, on est le 1er mai, donc c'est aussi la manifestation, et vu l'état du monde et l'état de la France, c'est important de manifester. Allez, bonne journée, au revoir.